Dieu est là, c'est ce que nous venons de chanter. Dieu est là pour, quoi faire ? Pour nous bénir, pour nous consoler, pour nous parler. Alors nous allons faire pour commencer deux lectures, la première dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il y a une femme qui pourrait le chanter, qui doit le chanter dans le ciel. Je ne sais pas comment il chante au ciel, mais elle doit chanter qu'elle a été bénie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, il se trouve qu'il y a une femme qui va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. À cause des gens religieux qui pensaient connaître Dieu, elle va se retrouver dans une situation terrible. Jean chapitre 8, verset 1er. Regardons bien cette histoire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas, non plus, va et ne pêche plus. » Et on pourrait rajouter, et elle partit, comment elle est partie ? Comment ? Ah ouais, sautant de joie sûrement, oui. Alors, on vient de lire un texte qu'on connaît. Une chose bizarre s'est passée pendant que cette histoire s'est déroulée, c'est que Jésus s'est accroupi, et il a écrit par terre. Ça vous a jamais étonné, ça ? Jésus, il s'accroupit et il écrit par terre. Alors, on va lire d'abord un autre texte avant de revenir sur celui-là. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 17, les apôtres avaient été envoyés dans les villes et les villages pour prêcher l'évangile. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu, la guérison, la délivrance. Et bien sûr, ils étaient bouleversés. Luc chapitre 10, verset 17. Ils ont fait des expériences extraordinaires. On va lire ce qui se passe. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? D'un côté, on voit Jésus qui écrit sur la terre, et d'un autre côté, on voit un texte où les noms de certaines personnes sont écrits dans les cieux. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc la question que nous devons nous poser, nous, ce soir, est celle-ci. Notre nom est-il inscrit sur la terre qui représente quoi ? Moi, quand j'ai lu ce texte pour la première fois, j'ai dit, mais qu'est-ce que Jésus a écrit ? C'est une question que vous êtes peut-être posée, mais qu'est-ce que Jésus écrivait ? Alors, on peut peut-être avoir la réponse dans Jérémie, au chapitre 17. Regardez bien ce texte. Moi, c'est sûr, d'ailleurs, les parallèles bibliques, si vous avez une Bible en parallèle, vous feront coordonner les deux textes. Jérémie, chapitre 17, verset 13. Regardez ce verset, comment il est. Il est impressionnant. C'est exactement certain, c'est sûrement l'explication. Regardez. Jérémie chapitre 17, verset 13e. Toi qui es l'espérance d'Israël, au Éternel, regardez bien, lisons-le lentement. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Je le relis quand même parce que c'est très sérieux cette affaire. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ces trois premières lectures nous enseignent clairement. Il y a des gens qui sont inscrits sur la terre. Et il y a des gens dont le nom est inscrit dans les cieux. Et on va lire encore un autre texte parce que c'est important, c'est ce que la Bible dit. Dans l'Apocalypse, il y a un texte qui nous parle du jugement dernier. C'est un livre, c'est un moment terrible. Ce sont tous les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ qui vont se retrouver confrontés au jugement. Ça s'appelle le jugement dernier. Regardez, Apocalypse chapitre 20, verset 11. Ce n'est pas le seul texte où il nous est parlé du livre de vie, mais c'est un texte qui fait réfléchir, comme ceux que l'on vient de lire d'ailleurs. Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Dans le ciel, il y a des livres. Il y a des livres, il y a le livre des œuvres, il y a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Donc la question que nous devons nous poser ce soir, elle est simple. Est-ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie? Dans toutes les églises du monde, il y a des registres. Il y a des registres quand vous prenez le baptême, comme Fabiola qui a pris le baptême dimanche, voilà. Il y a des registres qui indiquent le baptême, le mariage, les enterrements, même il y a des églises qui ont des registres très complets par rapport aux membres des églises. Mais je vous pose une question. Est-ce que parce que notre nom est inscrit dans un registre d'église, il est forcément inscrit dans le ciel? Bien sûr que non. Parce que pour entrer dans le ciel, il ne faut pas être catholique ou protestant ou évangélique ou pentecôtiste ou apostolique. Pour entrer dans le ciel, c'est une autre affaire. C'est vrai que partout, il faut des papiers. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans papier. Est-ce que vous le savez, ça? Quoi que ce soit que vous fassiez, il vous faut des papiers. Et même pour entrer au ciel, il faut un papier. Mais là, c'est dans un domaine spirituel, c'est beaucoup plus sérieux. Vous voyez cette affaire où Jésus, parce que Jésus aurait pu vivre cette histoire dans la femme adultère sans s'accroupir et écrire par terre. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ça aurait été la même histoire, pour ainsi dire. Mais nous voyons des hommes qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent la loi de Dieu, ils connaissent des histoires, ils connaissent des préceptes, mais ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Et on le voit souvent dans la parole de Dieu. Même Nicodème. Nicodème, c'était le pasteur des pasteurs. C'était le docteur d'Israël. Et quand il est allé voir de nuit Jésus, pour pas qu'on le reconnaisse, il a dit quelque chose comme ça. Nous savons, il parle même de la part des pharisiens, des autres, des docteurs, des pasteurs. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui, mais il ne le connaissait pas. Et ce n'est pas parce qu'on sait plein de choses sur Dieu qu'on est passé par ce que la Bible appelle la repentance. Et ces pharisiens qui ont voulu surtout accuser Jésus, je pense qu'ils n'en avaient rien à faire de cette femme. Ils voulaient surtout coincer Jésus, mais cette femme, elle a obtenu le salut de son âme. Tandis que eux, là, c'est clair, on en déduit que ces hommes avaient abandonné Jésus-Christ, avaient abandonné Dieu. Et ils ont été inscrits sur la terre. Donc la question que nous pouvons nous poser ce soir est celle-ci. Mon nom sera-t-il inscrit sur le livre de vie? Car si mon nom n'est pas inscrit sur le livre de vie, eh bien je terminerai loin de Dieu, séparé de Dieu pour toujours. C'est pour ça que les apôtres, quand ils sont revenus tout contents, tout heureux, c'est normal, ils ont fait des choses formidables, on a fait ceci, on a fait cela, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils pensaient donc, ils étaient super contents de le résultat. Et Jésus leur dit, mais vous savez le résultat? Le résultat, qu'est-ce qu'on pourrait dire du résultat? Le résultat, il y en a, il n'y en a pas, ça va, ça vient, d'accord. Mais il y a une chose qui demeure et qui nous réjouira toujours, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous pas du résultat. Le résultat, merci Seigneur s'il y en a. Merci Seigneur quand les gens se tournent vers Dieu. Merci Seigneur quand les gens sont guéris. Merci Seigneur quand les églises sont dans la grâce, etc. Mais il y a une chose qui devrait te réjouir. Est-ce que tu peux te réjouir de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Parce qu'on peut, on peut honorer Dieu de la bouche. Jésus l'a dit, enfin Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament. Ce peuple m'honore. De quoi il l'honorait? Des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et voilà ce que Dieu dénonce souvent. Les gens n'abandonnent pas les églises, les gens n'abandonnent pas la religion, les gens, ils ont une religion, les gens, ils vont à l'église, leur corps va à l'église, mais leur âme est très éloignée de Dieu. Et ces pharisiens représentent ces hommes qui malgré leur religion, eh bien, n'ont pas la bénédiction. Jésus s'est penché pour écrire sur la terre qui est l'image de la malédiction parce que les gens n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et bien sûr, le ciel qui est l'image de la bénédiction. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que son nom soit inscrit dans le livre de vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? On pourrait se poser la question, est-ce que c'est par les œuvres? On a chanté un cantique qui était pris d'un verset biblique. Il était où ce verset qu'on a chanté? Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est où ça? Parce que c'est bien de chanter, mais c'était quel verset? Comment? Non, ça c'est le contraire. Il est dit, non, mais le mot exact du chant, c'est Actes 4:12. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. On va le lire pour, au cas où quelqu'un douterait, s'il vous plaît. D'accord? Je ne vise personne, mais le terme exact. Éphésiens 2, c'est pas dit de la même manière. Alors, acte 4, verset 12. Alors, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et je crois qu'elle a raison. Oui, je me suis trompé de cantique en fin de compte. Mais on va le lire quand même. Vous avez raison, Christian. Je me suis trompé de. Je croyais qu'on avait chanté celui-là. Vous voyez, il faut me donner du repos. Éphésiens chapitre 2, voilà, c'est bien. Versets 8 et 10. Nous voyons ce qu'est la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà donc ce qu'on a chanté. C'est bien, Ketsia. J'avais pensé qu'on avait chanté l'autre. Excusez-moi. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et il y a des gens qui s'y... Le jour du jugement dernier, vous avez vu ce qui se passe? Il y a des livres qui sont ouverts. Il y a des livres qui sont ouverts. Et il y a le livre de vie. Il y a le livre des œuvres. Parce qu'il y a des gens, ils s'imaginent, qui sont sauvés par les œuvres. Alors, est-ce qu'il faut faire des œuvres? Eh oui, il faut en faire. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si quelqu'un ne fait pas d'œuvre, ça prouve que sa foi, elle est inutile. Et on ne peut pas ne pas faire d'œuvre. Quelqu'un qui est sauvé, il a à cœur de faire certaines choses pour Dieu. Et la Bible dit que heureux les morts qui meurent dans le Seigneur parce que leurs œuvres les suivent. Mais ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Un homme ne peut pas être sauvé par les œuvres. Le jugement dernier sera quelque chose de terrible parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on est sauvé par les œuvres. Il y avait un monsieur qui habitait en face, je vous en ai souvent parlé, il avait 27 maisons et il les a données à une dénomination religieuse et il me disait, monsieur Go, moi j'ai donné mes maisons et je sais que j'irai au ciel parce que j'ai donné mes maisons. Et je lui disais, non, il s'appelait monsieur Villèle. Non, monsieur Villèle, pour aller au ciel, il vous faut donner votre cœur à Jésus-Christ et passer par la repentance. Il me dit, non, moi j'irai au ciel sans la repentance, j'irai au ciel parce que j'ai donné mes 27 maisons au couvent bleu. Voilà. Et j'ai dit, non, vous n'irez pas au ciel. Et vous, c'est ma parole contre la vôtre. J'ai dit, mais ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par le nom de Jésus-Christ, lorsqu'un homme passe par une profonde repentance. La repentance, ça revient continuellement dans la parole de Dieu. Si vous voulez aller au ciel, est-ce que c'est le baptême qui sauve? Non. Bien sûr, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, parce que celui qui croit et celui qui est baptisé est passé, normalement, il est passé par la repentance. Il est passé vraiment par un moment de profonde conviction. Il a réalisé toute l'œuvre de Jésus-Christ. Il a réalisé pourquoi Jésus-Christ est venu sur la croix, pourquoi Jésus-Christ a versé son sang pour nos péchés, pourquoi il a accepté d'être crucifié. Jésus aurait pu ne pas mourir sur la croix, Jésus aurait pu ne pas venir du tout. Il y a des gens qui disent, oui, c'est une erreur judiciaire, ce sont les Romains qui l'ont cloué, ce sont les Juifs qui l'ont cloué. À Noël, vous savez, la période de Noël, il y a plein de journaux qui sortent et qui expliquent qui c'est qui a crucifié Jésus. Ça fait 2000 ans que ça dure. Et les uns se défendent, les autres accusent, ce n'est pas nous, c'est les autres, etc. La Bible est catégorique. C'est nous tous qui avons crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Tous, moi, vous. C'est vous qui l'avez crucifié, nous qui l'avons crucifié à cause de notre péché. Et le seul moyen pour nous d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, eh bien, c'est de passer par une profonde repentance et de vraiment d'expérimenter une profonde conversion. La Bible dit « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés ». Et beaucoup de gens s'imaginent être sauvés. Il y a plein de gens qui vont dans les églises, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils vont à l'église et en même temps, ils vivent dans le péché. Ils vont à l'église et en même temps, ils cautionnent le péché, ils encouragent le péché. Il y en a même qui disent, mais c'est pas grave, on peut pécher, on peut vivre dans la fornication, on peut vivre dans le péché qu'on voudra, c'est pas grave. La Bible dit que les fornicateurs, les homosexuels, etc., n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu veut les sauver. Est-ce que Dieu aime les fornicateurs? Est-ce que Dieu aime les homosexuels? Oui, Dieu aime tout le monde. Mais ils doivent tous accepter Jésus-Christ comme sauveur, et comme tous les pécheurs. Tous les hommes, quels qu'ils soient, que ce soit de grands pécheurs, parce que nous on a la faculté d'évaluer la taille des pécheurs. Ça c'est un grand pécheur, ça c'est un petit pécheur. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais que mentir? Ah, tu es un petit pécheur. Toi tu manges et tu voles? Ah, toi tu es un moyen pécheur. Non, nous sommes tous perdus. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et que nous devons absolument prendre la prédication de la croix avec beaucoup de sérieux. C'est quelque chose de terrible. Dans la Bible, il y a une histoire qui se passe. On voit deux hommes qui vivent à la même époque. Un est pauvre, l'autre est riche. L'un, bien sûr, souffre, il est malade. Il n'est pas malade parce qu'il est pauvre, mais peut-être il ne peut pas se faire soigner. L'autre, il est riche, il mène une joyeuse et brillante vie. Il est même revêtu, comment il est habillé de fin lin. C'est-à-dire qu'il a l'image des œuvres. Le fin lin dans la Bible, c'est tout le temps l'image des gens qui font des œuvres. Et peut-être qu'il faisait quelques œuvres. La Bible dit que le pauvre désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table. Donc peut-être qu'il faisait quelques petits trucs pour faire bien. Et tous les deux sont morts. Un est parti au paradis et l'autre est parti en enfer. Le pauvre est parti au paradis. Il n'est pas parti au paradis parce qu'il était pauvre. Il est parti au paradis parce que Dieu était son secours. Parce que Dieu était vraiment sa grâce. D'ailleurs, Lazare, ça veut dire « Dieu est mon secours ». Cet homme avait accepté Dieu comme son secours. Et le riche, lui, malgré son fin lin, malgré l'apparence qu'il avait, eh bien, il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Et qu'est-ce qu'il va faire là? Vous rappelez ce qu'il fait cet homme? Vous allez m'aider parce que je sais que vous connaissez bien la Bible. Vous rappelez ce qu'il fait? Alors on va le lire ensemble. Pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas être repris par Chrétien. Parce que... C'est dans Luc au chapitre 16. Regardez ce qu'il fait cet homme. Vous savez, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas nous qu'on l'a inventé, ce n'est pas un apôtre. C'est le Seigneur qui vient de l'au-delà, lui-même, qui a donné cette histoire. C'est une des histoires qu'il faut prendre avec le plus de sérieux parce qu'elle résume exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. Luc, chapitre 16, verset 19. On va la lire cette parabole. Parce que peut-être quelqu'un a besoin de réfléchir à son éternité. Si vous n'êtes pas sauvé, réfléchissez parce que votre vie ne vous appartient pas. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. » Je répète, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Et la preuve, c'est que Jésus est mort, et quelques jours après, il est ressuscité, et que les gens ne croient pas à la résurrection. Cette histoire, elle nous montre quoi? Eh bien, qu'il faut mourir, et qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu, et qu'il faut que vous sachiez si, oui ou non, votre nom est inscrit sur le livre de vie, ou si à cause de votre légèreté, eh bien, votre nom est inscrit sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait le riche? Vous avez vu ce qu'il fait le riche? On va terminer avec ça. Luc 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Il leva les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'image de la personne qui commence à lever les yeux vers le ciel. Mais à quoi ça sert? À rien du tout. C'est ici-bas qu'il faut lever les yeux vers Dieu. C'est ici-bas qu'il faut commencer à réfléchir à l'éternité. Là-bas, il lève les yeux, ça ne sert à rien. C'est trop tard. Des fois, on dit, oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce n'est pas vrai. Il y a un moment où ce sera trop tard. La seconde qui suivra notre décès sera décisive. Ou nous partirons dans l'éternité, dans le paradis, ou nous partirons dans le lieu de tourment en attendant le jugement dernier. C'est Jésus qui parle. Vous voyez, cet homme, il est là. Il est dans le séjour des morts. Il lève les yeux. Il faut le faire ce soir, si vous êtes un vivant. Vous savez, quand je prêche sur ces paraboles, je pense à tous ces gens à qui j'ai parlé, qui sont parfois morts quelques jours après. Quand je travaillais pour l'EDF, je me rappelle un jour, on était en train, c'était un vendredi soir, j'avais 22 ans. On était en train de charger du matériel avec un gars. Il me regarde, il me dit, « Tu vas où dimanche ?» Ben, je vais à l'église. Et il a ri. Tu vas à l'église? Toi, tu vas à l'église? J'ai dit, oui, je vais à l'église. Je vais écouter la parole de Dieu. Et il a ri. Et j'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, moi, je vais à Paris en boîte de nuit. On va s'éclater, on va danser, on va faire les fous. J'ai dit, mais tu devrais quand même réfléchir à ton éternité. Et il a ri. Le lundi, je ne le vois pas. Le mardi, je ne le vois pas. Et le mercredi, je pose la question, mais vous ne savez pas où il est? Il me dit, mais t'es pas au courant? Il s'est saoulé, il s'est étouffé dans son vomi. Et il est mort. Il avait mon âge. Et il riait. Parce que pour lui, à 22 ans, mourir, pour lui, c'était impossible. Pour lui, il avait toute la vie devant lui. Il pensait vivre 200 ans, sûrement. Notre vie ne nous appartient pas. Et il va falloir que nous réfléchissions à cette affaire. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Cet homme, il est mort. Il lève les yeux. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait au verset 24? Il commence à prier. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » C'est pas beau d'invoquer la miséricorde de Dieu, mais c'est trop tard. Il le fait, c'est trop tard. Aie pitié de moi. C'est sur terre qu'il faut dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pécheur, je ne me suis pas occupé de mon âme. Je ne sais même pas où est mon nom est inscrit. Oui, il est inscrit dans une église. Je croyais que ça suffisait. Non. Est-ce que votre nom est inscrit dans les cieux? Est-ce que dans le ciel, il y a des livres? Je ne sais pas comment ils sont, ces bouquins, mais il y a des livres. Et votre nom est écrit ou est effacé? Est-ce que notre nom peut être effacé? Est-ce qu'il y a un texte, des textes qui nous montrent que notre nom peut avoir été écrit et puis notre nom peut avoir été effacé? Parce qu'on n'a pas continué dans le salut. Regardez avec moi dans l'Apocalypse. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 3. Ce sont des choses archi sérieuses, mes amis ou mes frères et sœurs. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 3, le Seigneur permet que une lettre soit écrite à l'église de Sardes. Regardez verset 5. Apocalypse 3, verset 5, on va lire le verset 4. « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Quelle bénédiction! Je confesserai mon nom. C'est Jésus qui parle. Si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, si vous croyez qu'à la croix il a versé son sang pour vos péchés, si vous vous repentez, si vous dites « je veux le suivre, j'accepte le sang de Jésus-Christ », votre nom sera inscrit. Et bien sûr, il faudra marcher dans cette grâce, dans cette sainteté. On peut avoir son nom effacé du livre de vie. Je sais que le ciel, c'est merveilleux, mais il y a un travail terrible, c'est celui-là. Je ne sais pas quel est l'ange qui fait ça, mais vous, effacer des noms du livre de vie, ça doit être la chose la plus triste qui existe au ciel. Effacer un nom. Ça doit être terrible, vous vous rendez compte? Votre prénom qui est écrit avec votre nom, effacé. Pourquoi? Parce que les gens n'auront pas pris au sérieux ces choses. Et cet homme dans la parabole, il croyait certainement être sauvé puisqu'il était revêtu de fin lin. Il était revêtu, vous voyez, d'habits qui représentaient les œuvres. Non, il faut lever les yeux, il faut crier à Dieu, il faut implorer sa miséricorde. Même il a envie d'évangéliser, ça fait presque rire. Si c'était pas l'éternité, ça ferait presque rire. Au verset 27, vous vous rendez compte, il dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Il est perdu, il est en enfer et il veut évangéliser ses frères. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Une chose est terrible, c'est que quand on est en enfer, on ne doit pas avoir envie que les autres nous rejoignent. Ce sont des choses qui ont été dictées par Jésus lui-même. Ce que le Seigneur veut, c'est que votre nom soit écrit dans son livre. Ce soir, on va se séparer, on va rentrer à la maison. Vous devez entendre ces choses. Vous devez pouvoir répondre. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie ? Oui, si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur. Oui, si tu le conserves comme Seigneur. Oui, si tu dis, je resterai attaché à lui. Je ne me contenterai pas d'une religion. Il y a des gens qui vont à l'église. Ils vont à l'église et ils s'imaginent être sauvés. Si vous saviez le nombre de fois, ici, dans cette église, où j'ai dit à des gens, vous n'êtes pas convertis. Mais si, monsieur Gauche, j'ai pris le baptême. Je ne vous demande pas si vous avez pris le baptême. Je vous demande si vous êtes passé par la repentance. C'est quoi la repentance ? Les gens, ils ne savent même pas ce que c'est la repentance. Quand vous êtes passé par la repentance, vous le savez. Quand vous avez été convaincu de péché, que vous avez dit « je suis perdu, si je meurs, je m'en vais sans Dieu », vous savez que vous entrez dans un processus de repentance. Si vous commencez à dire « je veux, Seigneur, prendre au sérieux ces affaires », c'est sérieux l'éternité. Ce n'est pas 2 milliards d'années, 10 milliards d'années, c'est l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Alors votre nom, est-ce qu'il est inscrit par terre? Vous savez, les pharisiens, ils sont partis, vous avez vu, on a lu l'histoire, ils sont partis, tout penauds, du plus vieux au plus jeune, ils ont compris, ils connaissaient la loi, croyez-moi, ils connaissaient la loi. Ils sont partis, et rien que ça a dû les faire réfléchir. Peut-être certains se sont convertis, puisqu'il est dit dans les actes, qu'une foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, c'est probable que ces hommes-là ont dû dire, mais quand même, ce qu'il a fait, ça. Ils connaissaient, c'est pas possible, ils n'étaient peut-être pas tous savants, mais quand même. Ils ont dû rentrer chez eux en disant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce rabbi, il a écrit sur la terre. Est-ce que ça me concerne? Est-ce que je suis maudit? Parce que je me suis détourné du Sauveur. Je me suis détourné du Seigneur. Et nous devons être sérieux avec la parole. Ce soir, on est là, bien sûr, il y a la joie de la communion fraternelle. Il y a la bénédiction de lui appartenir. Mais vous devez pouvoir sortir et dire, oui, mon nom est inscrit. Gloire à Dieu, je marcherai dans la sainteté, j'obéirai à Dieu, il sera mon sauveur et mon Seigneur. C'est ce que vous avez fait, Fabiola, hein, ce dimanche. Voilà, on a pris la décision et on reste attaché à Dieu. Mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Repentez-vous. Dites, j'abandonne mon péché, je demande à Jésus que son sang vienne me toucher, vienne me couvrir, parce que c'est par le sang de Jésus que notre nom est inscrit dans le ciel. On va fermer les yeux quelques instants. C'est un moment important peut-être pour vous, un moment où vous devez prendre position, un moment où vous devez dire, je choisis Jésus-Christ, je choisis la croix, son sang précieux. Moi, je ne sais pas où vous en êtes, mais si j'ai eu à cœur cette exhortation, ce sermon, c'est que peut-être quelqu'un a besoin de passer des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis, peut-être que vous voulez vous coucher ce soir en ayant votre nom inscrit dans le livre de vie, ça dépend que de vous. Le Seigneur, il a tout accompli, il a tout fait au calvaire pour que votre nom soit inscrit. Alors je vais prier pour vous, je ne ferai pas d'appel tout à l'heure, mais je vous demande de réfléchir, vraiment de réfléchir, de ne pas sortir de cette église sans avoir fait la paix avec Dieu, sans avoir refait la paix avec Dieu. Parce que peut-être quelqu'un a été léger avec les choses de Dieu, peut-être que votre nom a été effacé, et que ce soir vous dites, non, Seigneur, je m'humilie, je te demande pardon, j'ai été léger, je veux à nouveau que mon nom soit réécrit. Eh bien, il le fera. Si vous vous repentez, il vous restaurera. Si vous vous repentez profondément, le Seigneur réinscrira votre nom sur son livre. Mais c'est un jeu auquel il ne faut pas trop jouer. Il ne faut pas jouer avec ça. Il vaut mieux que son nom soit écrit une bonne fois pour toutes. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rire. Vous pouvez perdre tous vos points de permis, ce n'est pas grave. Vous pourrez rattraper votre permis. Il y a des choses comme ça, on peut les perdre, sur le moment ça fait de la peine, mais ce n'est pas grave du tout, croyez-moi. Par contre, ça c'est archi important. Et on est heureux ce soir si on sort tous avec cette assurance que notre nom est écrit dans le livre de vie. Notre Père, tu nous as laissé ta parole et nous ne voulons pas lever les yeux vers toi une fois qu'il sera trop tard, te supplier, te prier ou même évangéliser une fois que nous serons partis dans l'éternité parce que nous savons très bien, comme tu l'as dit, que ça servira à rien. C'est aujourd'hui, sur la terre, que nous voulons prendre ces choses à cœur. Et nous te prions, Seigneur, pour celui qui veut que son nom soit réinscrit dans ton livre, pour celui qui veut que son nom soit inscrit pour la première fois dans ce livre, et définitivement. Oui, tu as versé ton sang pour que tous les hommes soient sauvés. Tu as versé ton sang pour que tous les hommes puissent choisir, comme on l'a entendu tout à l'heure, la bénédiction d'en haut. Tu as donné ta vie pour que tous les hommes puissent être bénis ici-bas et dans l'éternité. Tu ne veux pas que notre nom soit inscrit sur la terre. Tu veux que notre nom soit inscrit dans les cieux. Alors sauve une âme ce soir et donne-nous vraiment à chacun d'être sérieux avec ces choses, d'être sérieux avec ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.